Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui chasse sur le terrain de son enfance en comptant ses sous.
Un peu que de poésie. C'est
poétique.
Vous notez que c'est pas moi qui ai fait l'intro, c'est ce cher Thio.
Et de suite, ça devient intellectuel.
Ouais, tout de suite, c'est intellectuel, mais ça veut surtout dire quelque chose, c'est que aujourd'hui, vous n'en aurez pas pour votre argent. D'un autre côté...
D'un autre côté, ils payent pas, donc...
C'est vrai. Hey, la connexion Internet, tout ça, le téléchargement et tout, c'est peut-être... ils peuvent aller en prison s'ils nous téléchargent presque, les gens. Hein, parce que le téléchargement, c'est illégal, j'ai entendu ça à la télé. Ouais, ouais. Non, mais il y a des gens qui le croient.
Attends, mais on est rétribué ? Je touche de l'argent là-dessus ?
Non, non, ah. Malheureusement. Un épisode de mini.
Un mini, bah parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à faire en ce mois de juin.
Ouais.
Surtout moi. Parce que forcément, qui dit mois de juin dit fin d'année, dit du coup.
Bah forcément, tu vas pas raconter ta vie non plus.
Mais si, je raconte ma vie. Alors donc, du coup, bah, ça veut dire fin d'année scolaire. Hein. Donc, bon, mais c'est vrai que dans un mois, je suis en vacances. Plus beaucoup là du coup ça
je crois faire... qu'on va perdre tous nos auditeurs là une oasis ça y est
fait...
c'est bon
dans 5 quoi là il sera en 22 c'est ça 26 bon ben dans 6 jours je suis en vacances pour 2 mois et donc là ben c'est les bulletins c'est les passages
bon,
c'est,
si
la fête,
BD,
c'est la fête de fin d'année aussi on fait la petite chorégraphie avec mes élèves cool. Et tout c'est top
et donc on fait une épisode spéciale on va vous parler de la BD les profs de la BD l'élève du cobu et de
Hey.
Ça serait un truc intéressant, mais c'est pas ça qu'on fait.
On aurait pu faire ça, mais non.
Donc c'est un mini, on est sorti de notre bibliothèque de vieilles choses, qu'on n'avait pas lu depuis longtemps.
Des vieux trucs, hein. Là, et puis des choses, je dirais, qui sont pas trop dans nos habitudes. Pour une, en tout cas, c'est quelque chose qui oui. Est nouveau.
Oui, c'est nouveau. Bah, d'ailleurs, t'as dit que tu démarrais.
Et bien donc, moi, j'ai choisi dans ce mini, de vous parler de la jeunesse de Picsou.
Ah, de Keno Don Rosa.
Et donc là, on a perdu donc la moitié des autres auditeurs qui étaient encore là. Ils ne sont plus présents. Et donc on a... Alors moi, c'est un Picsou hors série qui date de 98, je crois, un truc comme ça. Enfin, de toute façon, c'est avant 2001 parce que c'est encore en franc. Et que Picsou Magazine sortait le premier mercredi du mois. C'était la meilleure BD de Donaldville à 15 francs.
Waouh!
Cherche combien ça coûte un Picsou Magazine maintenant.
C'est pas 2 euros. Hein.
C'est ça, à mon avis, ils ont pris une sale augmentation dans la tête. Alors, comment est-ce que j'ai classé ça
Alors, le genre. C'est de la biographie économique.
Il doit être de la biographie économique, c'est ça, parce qu'on va s'attarder donc. Eh bien, comment Balthazar Picsou a fait fortune ? Comment est-il devenu l'homme le plus riche du monde ? Sachant qu'au dernier classement Forbes, il était quand même plus riche que Bill Gates. Ils se font vraiment chier à Forbes.
Oui, et que Bruce Wayne aussi.
C'est vrai, mais, ouais, mais Bruce Wayne, de toute façon, c'est un loser.
Oui, et donc, on va voir...
Toute sa jeunesse, jusqu'au moment où il va arriver à Donaldville, et où il va créer... Bah, son coffre, tout ce qui va ensuite être célèbre dans la série Picsou. Quoi.
Ça commence avec le sou fétiche, quand il a eu son premier sou. On a toute sa aventure au Klondike. C'est à chaque fois qu'il nous tannait dans les vieilles BD, « Ah, je me souviens, dans le Klondike, c'était pas comme ça bah, !» Là, on les a, les aventures dans le Klondike.
Bah, en fait, on fait le tour du monde avec Picsou. On va aller aux Amériques. On va aller en Afrique du Sud. On va aller en Australie.
Ouais.
On revient aussi en Écosse parce qu'on se rappelle quand même que c'est Balthazar Mac Picsou au départ.
Oui, c'est Scrooge McDuck.
Scrooge McDuck, qui est donc un clan écossais. Et on va avoir tout l'apprentissage de Picsou et comment est-ce qu'il va devenir ce grand homme que nous connaissons tous. Alors mes deux mots pour définir le scénario, ça a été historique et apprentissage. Historique, bah là, ça semble évident. Hein. Tout le scénario est bâti sur le déroulement chronologique de l'enfance de Picsou jusqu'au moment où il va devenir donc l'homme le plus riche du monde, parce que c'est quand même son
le
souhait.
Le canard prochain. Le plus riche.
Je crois qu'il dit l'homme.
Le canard le plus riche du monde.
Alors là.
Parce qu'il y a des hommes aussi, hein. C'est pas que des animaux anthropomorphiques, hein, dans cette série.
Oui, mais justement, le classement, c'est l'homme le plus riche du monde.
Oui, c'est possible.
Attention, Time Warp.
Alors?
Voilà, il est dans le top 150 des milliardaires et il est devenu le premier.
D'accord. Ah, ils disent ni homme ni canard, en fait.
Ils disent ni homme ni canard.
Voilà.
C'est réglé, comme ça, c'est fait.
Voilà. C'est longtemps qu'on n'a pas eu un Time Warp.
Alors, au niveau du dessin, précis et dynamique.
Oui.
Alors, on va maintenant, donc voilà, j'ai un petit peu essayé de vous parler de cette œuvre, parce que j'ai relu ça, tout ça en 2 heures à peu près.
Alors qu'il y a 240 pages. Hein.
Hier soir, avec un grand sourire, une grande banane, parce que ben, même à plus de 30 ans, un Picsou. Ben, c'est quand même toujours bien.
Bah, surtout celui-là, parce que c'est pas que de la nostalgie, c'est aussi parce qu'il est bon, quoi.
Y a, ben, surtout, déjà, c'est une histoire qu'on connaît pas. Enfin, moi, je connaissais pas la jeunesse de Picsou, donc du coup, ben, je suis plongé dedans.
Oui, puis c'est rare aussi qu'on ait une histoire continue. La plupart du temps, dans Picsou, c'est des histoires très indépendantes, où il n'y a aucune chronologie, il n'y a aucune continuité, on s'en fout, en fait. Là, ils sont vraiment partis sur une continuité. En fait, Don Rosa, à la base, s'est amusé à prendre toutes les BD de Karl Barks, avec Picsou dedans, et à prendre toutes les références de Picsou sur à telle année j'étais à tel endroit, machin chose, pour essayer de reconstituer la chronologie. Il est fort ce Don Rosa.
Ouais. Alors.
Ouais.
Précis et dynamique. Pourquoi? Parce que dans chaque image, on va avoir, donc, de toute façon, toujours la ligne, on va dire, de Disney, hein, quelque chose qui est quand même assez clair, assez simple.
Un peu plus pointilleux, avec des petits traits partout. Quand
voilà,
même.
Mais du coup, on va avoir beaucoup plus de précision dans les décors, on va avoir beaucoup de petits détails, ce que je me souviens pas avoir vu avant.
Il y avait très peu de décors. Donc, Karl Barks faisait assez peu de décors. Les continuateurs n'en faisaient pas beaucoup non plus, il me semble, dans mes souvenirs. Don Rosa a vraiment un style assez particulier où il y a beaucoup de traits. Si tu regardes ne serait-ce que le visage de Picsou, les favoris comme ils sont dessinés, c'est plein de petits traits, c'est pas une seule ligne, ce qu'on retrouve plus chez les autres dessinateurs. Il va jouer sur un ancrage aussi plus sombre, tu vois sur certaines scènes où il y a des flammes, etc., où il va jouer un peu sur du contraste, ce qui est très très peu présent en fait chez d'autres illustrateurs Disney.
Bah, du coup, ça va créer vraiment, je trouve, une très bonne dynamique dans l'histoire, quoi. Parce que tu vas avoir les moments où Picsou est heureux, les moments aussi de déboire, parce que bah, il s'est pas fait en un jour et il n'a pas eu que des succès. Et d'un point de vue du scénario, on va avoir justement dans la dynamique du dessin, tu vas avoir bah, toute l'histoire qui va être, je trouve, super bien racontée, quoi. Parce que on va avoir le petit Picsou au départ qui est un petit peu le jeune naïf. Au début, voilà, c'est l'ingénu, quoi. Il veut réussir et ben il va se faire rouler, il va avoir des échecs, mais à chaque fois il va en tirer son parti et puis il va évoluer petit à petit jusqu'à devenir un Balthazar un peu aigri, quoi, par la vie. Mais surtout c'est un Balthazar où on va découvrir ses secrets. Les petites choses dans sa vie, ses regrets, ses remords.
Il le rend plus humain aussi. Il y a de l'émotion. Étonnamment, en plus de l'humour, il arrive à nous émouvoir. On voit les remords. Et puis c'est vrai que la BD finit en plus sur l'arrivée de ses neveux. Et où en fait il ressort de son coffre. Parce qu'il nous montre comment il est devenu ce vieux pain gris-gris, etc. C'est ça qu'il nous montre tout du long. C'est construit comme Citizen Kane, hein, d'ailleurs, vu que une des premières images. C'est la boule à neige qui tombe et Scrooge McDuck qui dit Goldie. C'est une des premières, mais je crois qu'ils nous ont mis un numéro 0 devant, etc. Mais
oui, c'est la dernière. C'est la toute dernière histoire.
C'est la dernière histoire qui était le numéro 0, c'est ça?
C'est ça.
Ouais.
Parce que tu as une histoire, celle où tu as justement la sorcière qui apparaît.
Oui, où il faut apparaître mystique.
Ouais. Non, oh, je l'ai plus.
Et c'est vrai que. C'est très beau. Moi, je garde un souvenir ému. Je suis très content de cette version-là. C'est pas forcément facile à trouver. Ça ressort en kiosque assez régulièrement. C'est les collections, les trésors de Picsou. Ça mériterait une belle édition, quand même.
Ben, je pense que ça pourrait mériter une belle édition un peu classe.
Voilà.
Sur du papier un peu de meilleure qualité que ça. Parce que je pense que voilà, là, ton tome, il va peut-être quand même avoir un peu du mal à survivre à un moment.
Ouais, il était pas cher, 29 francs. Attends, les 292 pages à 29 francs, trouve-moi un truc, hein, maintenant.
Donc ça fait à 5 euros.
Ouais, 5 euros les 292
pages. 5 euros, t'as un magazine. Un magazine du style Science et Vie ou un truc comme ça, quoi.
Voilà, mais pas de 292 pages couleur. Enfin, 200, voilà. Enfin, oui, couleur, mais pas de 292 pages.
Non.
Donc, c'était beau, c'était un beau film.
Vraiment une très, voilà, une super histoire de Picsou, je me suis régalé. Un très joli dessin et surtout, voilà, une appréhension, on va dire, du personnage dans sa globalité de Balthazar Picsou. Qui n'était pas aussi détaillé, je dirais, psychologiquement que ce que ça l'était dans les autres histoires du Picsou Magazine.
D'ailleurs, il faut savoir quand même que la jeunesse de Picsou est d'abord été prépubliée, enfin entre guillemets prépubliée, ce qu'ils appelaient pas ça la prépublication, dans les Picsou Magazine. Et donc on avait chaque tome qui paraissait. C'était un peu les débuts, je te le disais tout à l'heure, où ils commençaient à donner le nom des auteurs.
Parce que même, enfin, je te coupe, là, même là, ça a été. Si t'as pas le nom au début et à la fin, c'est-à-dire les petits préambules, on va dire, pour te dire voilà qui a dessiné ou quoi, c'est infaisable de trouver qui.
C'est marqué à aucun moment dans les planches. Il y a un code en fait, il me semble. Si je me souviens bien, il y a un code sur chaque planche qui te dit qui a dessiné. Mais c'est un truc genre imbitable quoi. Et il me semble que c'était Jean-Paul Jenquin qui était rédacteur en chef de Picsou Magazine à l'époque, qui avait commencé à faire mettre les noms partout. Et maintenant, si vous ouvrez, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, à Picsou Magazine, au début de chaque bande dessinée, vous avez le nom des auteurs qui y sont donnés. Et de plus en plus, ils commencent à s'intéresser aux auteurs, à faire des rétrospectives d'auteurs. Et je trouve que c'est intéressant parce que on a tendance à oublier que de très très grands dessinateurs ont œuvré dans la famille dans la famille Disney, beaucoup d'Italiens en particulier, et n'oubliez pas que une série comme Witch est une série Disney italienne qui a donné des auteurs comme si vous connaissez Sky Doll par exemple, ça peut vous faire une petite idée. Il y a de très très grands artistes chez Disney, sauf que malheureusement ils ne sont pas assez mis en valeur.
Oui. Enfin, en tout cas, une bien belle histoire.
Puis il y a des zombies dedans, on vous le dit aussi. Il y a un zombie dedans. C'est super important. Et puis il est super, le zombie. Il y a un zombie et il y a le Titanic aussi. C'est... Voilà.
Alors, et toi ?
Le Hamlet là.
Quoi tu nous parles ?
Moi, je vais vous parler de L'œil du chasseur. De Berthet et Forster. Chez Dupuis, c'est aussi une vieille chose que j'avais découvert en la lisant dans Spirou à l'époque, et autant te dire que je dévorais mes tomes de Spirou pour avoir la suite de l'histoire. On est dans une époque assez lointaine, genre 1988. Voilà. Et c'est là que je me rends compte que si je l'ai lu en prépublication dans Spirou, j'avais 10 ans. Et où t'avais carrément une collection qui s'appelait Berthet. C'est-à-dire que là, c'est le tome 5 de la collection Berthet. Le mec, il avait une série qui portait son nom, en fait. Parce que c'était toujours des histoires indépendantes. Ce qui est assez marrant. Avec des choses comme Le Privé d'Hollywood, Couleur Café, America, Morte Saison. Avec Andreas, Morte Saison, tu vois. Et donc, quelque chose de très varié. Et là, on est dans, au niveau du genre, du road movie thriller. Avec un dessin de Berthet, le scénario de Forster. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte la vie de Climby, qui est en prison. Il est dans une prison qui est menée de main de fer par Hunter. Hunter, c'est un homme cultivé, un homme intelligent, qui, en fait, n'a qu'une envie, c'est de montrer qu'il est capable de façonner les hommes comme il le désire. Et il a un gros problème, Hunter, c'est que Climby a un sourire figé sur le visage, et apparemment, il réussit à s'attacher à quelque chose pour rester toujours d'humeur égale, et Hunter veut le briser et veut trouver comment. Climby va s'échapper, Hunter va prendre un congé exceptionnel pour essayer de le retrouver, et c'est là que on va essayer de découvrir ce que Climby cache, qu'est-ce qui lui permet de garder ce sourire et cette joie. Et ça, c'est un endroit dont il parle, c'est un petit îlot dans un marais, avec un arbre gigantesque qui est superbe, où il veut construire sa maison, avec la fille avec qui il s'est échappé. Et donc, bah, c'est du road movie, son but c'est d'y aller, pour récupérer l'argent qu'il a planqué dans cet arbre-là, pour pouvoir bâtir sa maison. Et il est poursuivi par Hunter, mais il est aussi poursuivi par deux hommes en noir, dont on ignore un peu les raisons. Et en plus de ça, il va se retrouver aussi poursuivi par le gardien du marais, qui est un fou psychopathe, qui a un appôt à crocodile et qui dirige le gros crocodile, qui arrive à commander au gros crocodile du marais, parce que c'est une réserve naturelle. Voilà pour l'intrigue, je préfère éviter de trop raconter parce que c'est bourré de rebondissements. Ça reste très très classique. Au niveau du scénario, je dis que c'était habile et arborescent, c'est-à-dire qu'on a plein de personnages qui convergent vers Climby et vers cet arbre en fait, et on a l'impression que les racines se rejoignent à la fin sur cet îlot, sur cet arbre où il va y avoir le dénouement, où tout le monde va se rencontrer, où l'histoire va s'achever.
Mais d'avoir autant de personnages, c'est pas un peu complexe à comprendre?
Non, parce que c'est très très vite éclairci en fait. Il n'y en a pas tant que ça en fin de compte. Sur cette BD, c'est assez clair, c'est très très bien raconté. Moi j'ai mis habile et arborescent. Voilà, habile, parce que c'est le genre de scénario. Ça semble bateau, un peu raconté comme ça. À le lire, je me suis dit, mais ça pourrait faire un super téléfilm pour M6. Tu sais, le genre de thriller de balle avec le méchant
À
requin,
15h.
avec le méchant requin à la fin qui va buter tout le monde. Mais c'est le genre de scénar qui, là, est très bien raconté, très bien mis en scène. On est purement dans le thriller américain, quoi, ce road movie un peu glauque. Et ça passe. Là, c'est bien raconté, c'est le genre de truc, voilà, avec un bon réalisateur et une surprise. Et puis, une fin à laquelle on s'attend pas forcément. Même si. Quelque part, certains arrivent à leur fin. C'est beau. C'est touchant. Si on arrive à la fin, on est un peu le cœur serré. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le dessin. Le style de Berthet, c'est une ligne claire et assez stylisée. Claire parce que bah, on retrouve des traits vraiment bien lisses, bien droits, mais un côté stylisé dans la façon dont sont représentés les personnages. C'est pas des gueules droites, il y a un peu des gueules cassées, un peu déformées, qui collent vachement bien. Je pense principalement à Climby, qui a un air de petit niet, il a toujours ces sortes de rides de sourire. Même quand il fait la gueule, il a les rides du sourire, quoi. Et Hunter, avec son œil de verre, toujours son costume nickel sapé, cette mâchoire bien carrée, qui sont légèrement exagérées. On se retrouve avec des personnages qui sont bien écrits et assez attachants. Je veux dire, les deux personnages qui m'ont le plus marqué, moi, c'est Hunter et Climby, hein, qui sont
C'est les deux principaux de l'histoire, hein.
les deux principaux. On commence à on... En fait, il arrive à développer psychologiquement tous ces personnages en très peu de pages. C'est ça qui est surprenant et qui est très très bien mené. On a un scénario qui est très 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 malin. Donc, bref, bah, j'ai beaucoup aimé. Tu l'avais lu, toi?
Ouais, tu me l'avais déjà passé il y a quelques années. Et c'est vrai que l'histoire était bien, bien, bien plaisante, quoi. C'est assez un bon thriller, quoi. Tu as une bonne histoire, chaque personnage a son intérêt.
Le style graphique a pas vieilli, c'est un peu hors du temps, je trouve.
Ça fait quand même ancien, quoi. Hein. Moi, là, fin, là j'ai l'impression un peu de retrouver. Peut-être que bon, je vais me faire conspuer, mais tu vois, du Michel Vaillant, quoi.
Ouais, ça va dire conspué là.
Ouais, ben voilà. Mais
Ouais,
pourtant,
il y
c'est
a des
bon,
moments de
Michel
Michel
Vaillant.
Vaillant. Ouais, non, mais
Ah si, il y a quand
oui,
même.
mais bon.
Oui, mais bon, quoi.
Ouais, c'est plus mécanique et froid, mais pour Michel Vaillant, c'est normal. Voilà, ouais, non, graphiquement, j'aurais. Non, ça c'est super loin d'un Michel Vaillant, quoi.
Ah, il y a des passages, je trouve, qui ont quand même un
Ah, oh, les
petit.
passages dans le marais où il y a un jeu sur le contraste. Je me demande ce que ça donnerait en noir et blanc, tu vois.
J'ai pas dit tout, mais
Hein?
voilà.
Par exemple, le pneu de cette voiture ressemble au pneu de la voiture dans le Michel Vaillant numéro 5. Donc, bon, t'en avais gardé un bon souvenir.
Ouais, voilà, on va rester là-dessus.
Sur ce hors-série, ce mini, pardon, c'est pas un hors-série, nous allons faire un petit hors-sujet. Parce que c'était la fête de la musique la semaine dernière. Et nous ne l'avons pas fêtée avec vous. Et notre hors-sujet, nous allons faire du rock and roll. du vrai en vous parlant de This is Spinal Tap. Yeah. Tu pourrais faire yeah aussi.
Non.
Ah, This is Spinal Tap.
Un vrai groupe.
Un vrai groupe.
Une vraie parodie.
Un vrai bon film. Donc, c'est un film de...
Rob Reiner,
que l'on connaît pour Quand Harry rencontre Sally, pour Princess Bride. Et qui nous a fait un faux documentaire sur le groupe This is Spinal Tap. Enfin, pas Spinal Tap.
Enfin, un faux doc sur un vrai groupe.
Non, un faux
groupe. Sur un vrai faux groupe.
Parce que le...
Parce qu'en fait, ça devient difficile de savoir si c'est un vrai groupe ou pas, parce qu'en fait, il y a quand même un vrai CD.
Oui, alors sur l'édition DVD que j'ai, il y a... J'ai deux CD même, il y a un live et un...
Il y a la bande originale du film, et ensuite, il y a le CD du concert.
Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, on va suivre ce groupe de rock, typiquement années 80. Typiquement années 80. Qui fait du métal, quoi. Voilà, maintenant ça nous ferait sourire parce que c'est du métal gentil hein, ce qu'ils font Spinal Tap. Hein. On est plus proche de Kiss que de.
Oui, mais à l'époque c'est du hard rock.
Voilà, ouais, voilà on est plus proche que d'un de Kiss que d'un Cradle of Filth. Et donc il y a tout le côté mise en scène de cette exagération totale. Et le groupe a été formé pour le délire, sauf qu'il y a des gens qui ont cru que le groupe existait vraiment. D'autant qu'en plus, les acteurs, qui sont aussi des vrais musiciens du groupe, ont fait des vrais concerts, ont sorti aussi un vrai album. Mais après, la sortie du film, hein, genre... Parce qu'en gros, le documentaire part du parti pris que c'est un groupe qui, à l'heure actuelle, a été complètement oublié en France, enfin en France, aux États-Unis, et qui recommence à avoir un petit succès au Japon. Voilà. Avec leur nouveau batteur.
Oui.
Parce qu'ils changent souvent de batteur, ils en prennent avec leur batteur.
Il y a un gros souci avec le batteur en fait.
Ils changent de batteur tout le temps. Le batteur a toujours des problèmes. Il y en a un qui s'est fait enlever par des extraterrestres, il y en a un qui a fait de la combustion spontanée.
Il y en a un qui s'est, oui, j'allais dire la combustion spontanée, ça reste le top quand même.
Voilà, il y en a un qui. Enfin, jamais de problème de drogue par contre.
Non.
Non, jamais.
Jamais. Mais par contre, le batteur, c'est un poste à risque.
Voilà. Et on a tous ces membres du groupe, mais qui sont plus allumés les uns que les autres. Les mecs, ils sont complètement à l'ouest, ils comprennent rien à la vie. Mais. Il joue ça de façon réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui, dans le film, seraient limite un peu chiants et pas forcément drôles parce que on voit que c'est mis en place pour montrer le côté réaliste du truc, quoi. Pour vraiment accentuer le côté vrai et réel. Et il y a des super musiques, en fait, parce qu'il n'y a pas à dire, quand même, c'est du bon rock qu'il y a dedans.
Oui. Oui, surtout ils ont des, surtout les costumes de scène, je pense qu'ils sont exceptionnels.
Stonehenge. Oui, des costumes. Mais le pire, c'est que si tu regardes de vieux groupes de l'époque, c'est ça. Hein.
C'est ça.
Ils ont rien inventé, ils ont juste exagéré un petit peu comme il faut.
Avec le producteur qui fait des concerts à 2 francs, qui a pas en fait réellement prévu la tournée, il y a pas de thunes.
Parce qu'ils sont là, ils sont à la ramasse. Ils étaient des stars à une époque, ils ont sorti un album qui a fait un succès et depuis ils veulent faire un album concept et ça marche pas. Parce que tu comprends, créativement ils sont plus dedans, quoi. Ils se la pètent un peu aussi parce qu'ils ont souvenir d'avoir été un bon groupe, enfin un groupe connu.
En plus après il y a la femme la copine d'un des membres du groupe qui va commencer à faire chier parce qu'il faut que l'autre tire un petit peu la couverture pour lui, enfin
ouais, prendre la place du manager,
voilà, on se quitte pas, on s'aime plus, foutant, fout le camp, va-t'en, reviens, enfin bon.
Donc il faut tout de même savoir que sur les lives, ces chers monsieur de This is Spinal Tap, se sont chopés des petits musiciens.
Petits.
Donc, par exemple, sur le live, nous avons droit à un passage de Dweezil Zappa, de Steve Lukather, de Cher. Oui, Cher. Je trouve plus les noms de tous. Comment il s'appelle, le putain de guitariste de... Bah, il y a Slash, qui fait un passage. Jeff Beck, Joe Satriani. Enfin, des petits musicos, quoi. Des mecs dont on a vaguement entendu parler quand on est à fond de guitare. Hein ? Ouais. Bref, Spinal Tap, si vous ne connaissez pas, franchement, si vous aimez le rock and roll, si vous aimez la musique, je vous le recommande. L'édition DVD en plus était très jolie dans un faux ampli Marshall.
Un faux ampli Marshall, donc qui va jusqu'à 11.
Oui, qui va jusqu'à 11.
Parce que lui, il fait un son plus fort que les autres.
Voilà, il a fait fabriquer l'ampli exprès pour que le Petard aille jusqu'à 11 pour avoir un meilleur son que les autres. Voilà, on s'arrête ici. Petite pause, on se retrouve
dans 15 jours.
Voilà. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Facebook, à nous laisser des commentaires sur iTunes, parce que c'est bien sur iTunes aussi. Puis sur le site, tant qu'à faire. lavoixdesbulles.fr. On se retrouve dans 15 jours avec un programme exceptionnel qui parlera de je ne sais pas quoi encore, mais on a commencé à avoir empilé un peu les BD.
On va commencer à la psychanalyse, je crois.
Ouais, on va parler de commencer à la
psychanalyse. Ça, puis peut-être le nouveau The Boys aussi.
Ouais, ah ouais, aussi.
Ah, The Boys, avec le petit drapeau français quand même.
Ah. Vive la France! À ciao, à dans 15 jours.
Ciao!